Partager le savoir. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christa Leuc.
Canal Académie entretient une relation vraiment privilégiée avec les alliances françaises dans le monde. Et nous avons invité aujourd'hui les représentants de l'Alliance française à Brașov en Roumanie et Plovdiv en Bulgarie. Car chaque témoignage s'exprime avec beaucoup d'enthousiasme. Et vous allez en avoir une preuve aujourd'hui encore. Donc je suis absolument ravie d'accueillir Madame Elena Angelescu. Bonjour madame, vous êtes...
Bonjour, merci de votre invitation.
Vous êtes directrice de l'Alliance française de Brașov.
De Brașov, oui. Nous faisons partie en fait du réseau français du pays, de l'Arménie, qui commence avec le service culturel de l'ambassade de France, avec le centre culturel, il y en a 3, et avec 4 alliances françaises. Donc nous sommes une de ces 4 alliances françaises, nous nous trouvons dans une ville montagneuse au milieu du pays.
Oui, on va peut-être parler plus en détail après de la situation géographique, mais je fais d'abord la présentation et j'arrive à monsieur le président, monsieur Ion Ciolacu. Oui. Vous êtes donc le président de l'Alliance française de Brașov en Roumanie.
Oui, tout à fait.
C'est-à-dire que vous êtes dans la même alliance.
Dans la même alliance, oui. Tout à fait.
Et peut-être tout à l'heure, vous allez nous expliquer un peu la différence de vos fonctions par rapport à Madame Elena. Permettez-moi de vous appeler par votre prénom, c'est plus simple. Et nous arrivons à Madame Teofana Bradinska. Donc, vous êtes directrice à Plovdiv, en Bulgarie cette fois-ci.
En Bulgarie, oui,
le
bonjour.
Pays de notre blonde
Sylvie Vartan.
Mais oui.
Et de la rivière Maritsa, qui la chantait dans sa chanson, la Maritsa.
Oui.
Une très belle ville au milieu de la vallée de la Thrace. Donc c'est les tombeaux Thraces, l'or des Thraces.
Oui, c'est bien connu.
La capitale culturelle et francophone du pays, de la Bulgarie. Et c'est la plus grosse alliance dans le pays, selon ses nombres d'étudiants, professeurs, activités. Et c'est nous qui organisons le Festival international de la chanson francophone, Clé d'Or, en réseau avec les alliances, en partenariat, des alliances vraiment du monde entier.
Ah oui?
De l'Europe et de l'Asie, oui. Ça se passe
C'est-à-dire,
chaque année.
Vous avez établi un échange ou un réseau avec d'autres alliances?
Absolument, Brașov notamment.
Ah oui,
la Roumanie, celle de Roumanie, bien sûr.
Donc, on est des pays voisins, c'est normal.
Écoutez, puisqu'on est maintenant en Bulgarie avec ce que vous venez de nous raconter, c'est une ville très ancienne.
Qui date du 6e millénaire avant Jésus-Christ, avec des vestiges de l'époque Thrace. Tout autour dans la vallée, on continue chaque été de découvrir des tumulus Thraces avec de l'inventaire, avec de magnifiques masques en or, des bijoux, des couronnes en or. Je pense qu'il y a quelque temps à Paris, il a été exposé une partie seulement, une petite partie de
au
ces
Grand Palais,
trouvailles.
Oui, je l'ai vu moi-même, oui. C'était une sublime exposition. Et vous continuez
continue
à découvrir des tumulus
avec
les trésors qu'il recèle.
Des bagues avec de magnifiques masques funèbres des chefs Thraces de l'époque.
Ah oui.
C'est vraiment, maintenant, il y a des études, on parle que la civilisation européenne est née dans cette région-là. Et on va voir ce que vont donner l'été prochain.
Vous avez quelques concurrents remarqués pour les origines de la civilisation chrétienne.
Mais enfin,
vous laisser ce privilège.
C'est que c'est quelque chose qui est très joli et qui prouve qu'en effet, dans les temps anciens, il y avait des traces d'une civilisation très évoluée, quelque chose qu'il faut faire connaître et qu'il faut protéger.
Oui,
après, quelles sont les premières origines? Peu importe, c'est l'humanité, c'est du patrimoine vraiment de toute l'humanité.
J'imagine que le gouvernement bulgare s'occupe très activement de la conservation de ces trésors.
Bien sûr, et il y a des scientifiques surtout tout de l'Europe maintenant qui participe à des fouilles archéologiques. Il y a l'Académie des sciences et l'Institut d'archéologie à des échanges avec la France, avec les Pays-Bas et pendant l'été surtout, il y a des expéditions. On fait des fouilles archéologiques pendant 3 mois pour faire la découverte des vestiges et après ils font des études, ils présentent, ensuite c'est des conférences.
Oui.
Mais ce qui est vraiment impressionnant, c'est les bijoux, les décorations en or, c'est 24 carats, c'est d'une finesse, d'une filigrane, c'est impressionnant. Ça, c'est
là, vous nous faites tout
les
à
trésors
fait
Thraces, les ritons, les fiales, tout est incrusté, c'est d'une beauté. Ben, venez en Bulgarie.
Oui, absolument, merci beaucoup pour la invitation. Mais écoutez, je m'adresse maintenant à Elena Angelescu. Est-ce que vous pouvez nous faire rêver tout autant en Roumanie? Je suis sûre que vous avez aussi quelques trésors cachés.
Oui, bien sûr. Et puis, nous avons un très beau relief en Roumanie. Nous avons donné beaucoup d'hommes de valeur à la civilisation européenne.
Oui.
Beaucoup d'écrivains, beaucoup d'hommes de science. Il y en a de ceux qui ont vécu en France, par exemple, Émile Cioran.
Oui, Cioran, bien connu. Oui. Et qui écrivait en français. Oui, il était bilingue. Après, il écrivait beaucoup en français, mais avant, il devait écrire en roumain. C'est-à-dire, le roumain est donc une langue romane, avec des origines latines, comme le français.
Oui.
Et dites-moi, dans la population roumaine, est-ce qu'elle est partiellement francophone?
20% de la population de Roumanie
est francophone.
Peut être considérée comme francophone, oui.
Oui. Mais il y a aussi une partie de Slaves.
Non, notre pays est une île de latinité, entourée par les Slaves.
Donc la Roumanie est un très vieux pays. Vous avez tout à fait bien évoqué quelques grandes figures, notamment Émile Cioran, mais il y a aussi, en parlant de la littérature ou de la langue, Ionesco, dramaturge et écrivain, qui écrivait aussi en français.
Et nous avons même une figure locale de Brașov, un artiste d'origine hongroise, qui a pris d'ailleurs le nom de la ville de Brașov, Brașoi.
Oui.
Il est en fait Brassai, l'artiste photographe qui a vécu en France.
Ah, mais il est moins aussi connu que Ionesco. Oui. Et puis aussi une autre grande figure, Elie Wiesel, qui est un écrivain juif roumain. Mmh. On ne sait pas toujours qu'il est d'origine roumaine, qui est aussi un digne représentant de votre pays.
Oui. Elvire Popesco, pour continuer.
Ah, bien sûr.
Faites-moi. Michel Eliade, peut-être. Il faut le dire.
Bien sûr, Elia.
Aussi, il ne faut pas oublier. Donc voilà quelques noms que.
Merci,
que
monsieur
Roumanie,
le président,
que la
bien
Roumanie
sûr.
A,
comment peut-on oublier Brancusi, Eliade, etc. Voilà. Est-ce que vous pourriez peut-être nous faire un rapide survol géographique pour voir un petit peu la Roumanie? C'est un pays très montagneux. Quelles sont les principales villes? Quelle est la population? On en a un peu parlé, donc elle est principalement latine.
Oui.
C'était une province romaine, donc anciennement.
Oui, c'est bien sûr.
D'où la langue avec les racines latines.
Donc la Roumanie, elle a une population d'environ 22 millions d'habitants. Elle a une surface de 237 500 km². Il y a trois régions principales du pays, notamment la Transylvanie, qui se trouve à l'ouest du pays.
Ah, la fameuse Transylvanie avec ses vampires.
Voilà. La Moldavie qui se trouve à l'est du pays et la Valachie qui se trouve au sud. La religion de la Roumanie est principalement orthodoxe, mais aussi 90% et 7-8% des catholiques ou des protestants. C'est un pays qui a des origines latines, romaines, comme vous l'avez dit.
Oui.
Et c'est un pays partagé entre 50-50% population urbaine et population rurale.
Oui. Ah oui.
C'est un pays assez peuplé. Hein. C'est le deuxième pays après, je veux dire, des pays qui font partie de l'Union européenne. Après la Pologne, c'est en termes de population et de surface, c'est le deuxième plus grand pays de l'Europe de l'Est.
Oui.
Donc il faut bien s'imaginer.
Oui.
Ou l'Ukraine, hein, bien sûr.
Oui, qui n'est pas européenne, oui.
Voilà.
Oui. Donc vos frontières, c'est la Moldavie, l'Ukraine,
donc, on est
la Hongrie,
voilà, on
est
la frontière de l'Est de l'Union européenne, comme on est à la frontière de l'Est de l'Empire romain.
Vous êtes toujours avec un
pays
à la frontière.
Un pays de frontière.
Donc, ça ouvre beaucoup l'imaginaire.
Voilà.
Oui, oui.
Et quelques villes qui sont les plus importantes, Bucarest, la capitale, qui a aux environ 2 500 000 habitants. Bien sûr, Brașov, parce qu'on est originaire de Brașov.
Ça se situe plus ou moins au milieu ou...
Brașov, ça se trouve au milieu du pays, dans la courbure des Carpates, en Transylvanie. Et c'est à 20 km. C'est ville montagnarde. Et ça se trouve à 18-20 km du fameux château de Dracula. Voilà, pour faire un peu rêver.
Pour toucher ce sujet.
Je me suis dit, qui va être le premier à parler du grand vampire?
Non, mais ça, c'est bien sûr pour rigoler un peu. Voilà.
Vous l'avez rencontré, Dracula?
Écoutez, non, mais je cherche toujours à la rencontrer. Pour l'instant, malgré mes efforts, je n'ai pas eu cette occasion-là. Mais j'insiste.
Oui, je vois que vous n'avez pas de traces sur votre cou, donc
mais
ça va. Voilà.
Mais j'insiste.
Bon, blague à part. Maintenant, on va peut-être repasser un petit peu en Bulgarie. Outre les trésors des traces, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour faire également un petit survol de la Bulgarie, pour nous faire une sorte de carte postale?
Nous sommes au sud de la Roumanie, c'est donc l'autre rive du Danube. Bien sûr, c'est un petit pays, je dirais, sur les Balkans, qui a 111 000 km², avec une population de 8 millions d'habitants. Et donc, à l'est, notre frontière, c'est la mer Noire, avec un littoral, avec des plages voilà, magnifiques.
Elle veut encore nous faire rêver.
Non, c'est un pays, surtout, avec un patrimoine très, très riche, culturel, historique et naturel. Et à l'ouest, c'est la Serbie. Notre pays est divisé par les Balkans, donc nous sommes vraiment dans les Balkans, en Bulgarie du Nord et la Bulgarie du Sud. Donc la vallée de la Thrace est dans la partie sud et au sud, c'est la Turquie et la Grèce. Donc la vallée de la Thrace faisait partie jusque le dernier quart du IVe siècle de l'Empire romain. Ensuite, après la division de l'Empire romain, la Bulgarie est tombée dans sa partie est, c'est-à-dire la Byzance. Et donc, on a été jusqu'au XIIIe, XIVe siècle dans la Byzance. Après quoi, il y a eu déjà les tribus slaves, les proto-bulgares qui se sont installés. Et donc, nous, on est un pays slave où la principale religion, c'est bien sûr comme en Roumanie orthodoxe. Il y a une communauté catholique plus petite. Et aussi, nous avons, à cause de la proximité de la Turquie, aussi une communauté musulmane. La capitale, c'est Sofia, bien sûr. Mais comme je vous ai dit, la plus belle ville historique, c'est vraiment Plovdiv. La région avec les monastères bulgares, avec toutes les icônes, les fresques. C'est vraiment un pays à visiter.
Absolument à visiter, oui.
Sinon, après...
Point de vue francophonie ou francophilie, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire?
Alors, la francophilie et la francophonie étaient bien plus grandes au début du siècle, les années 1920-30, ou même à Plovdiv, le français était une langue officielle. Si vous voulez, les panneaux, les inscriptions des banques, des institutions étaient en français.
Ah oui.
Après, donc, il y a eu des périodes, bon, vous savez, l'anglais rentre puisque c'est le business et c'est quelque chose d'inévitable, mais la Bulgarie est officiellement admise au sommet de l'île Maurice et fait partie du mouvement francophone depuis 1993. Et maintenant, c'est l'Alliance française avec l'Institut français à Sofia. Donc, en Bulgarie, à la différence de la Roumanie, nous n'avons pas de centre culturel. Donc, il y a dans la capitale l'Institut français, qui est l'institution de l'État français auprès de l'ambassade.
La représentation officielle de
exactement,
de la
vitrine de la France. Mmh. Et la francophonie dans le pays se défend par le réseau des 8 alliances.
8 alliances, oui.
Dans les villes les plus grandes du pays, dont celle de Plovdiv est la plus grosse et la plus dynamique, les alliances françaises.
Justement, je vous propose, après une courte pause, de voir plus précisément comment se passe la vie dans vos différents établissements. C'était un extrait d'une merveilleuse ballade pour violon et orchestre d'un compositeur roumain, George Enescu. Nous avons vu un peu la géographie, la population, nous avons fait un survol de vos deux pays, la Roumanie et la Bulgarie. Mais une question quand même qu'on se pose, nous, disons en Occident, quel est le degré du changement avant et après le régime communiste, Madame Bradinska?
Énorme, c'est d'un régime totalitaire, on passe à un régime démocratique.
Et du jour au lendemain, ça a changé?
Ah non, c'est une période de passage qui
oui.
est
Non, enfin, quand je dis du jour au lendemain, c'est-à-dire, j'imagine que la population était tellement prête.
Oui, l'économie change bien plus vite. Il y a déjà le privé, l'initiative, tandis que le changement dans les mentalités, c'est quelque chose qui suit et qui est un passage un petit peu plus lent. Mmh. Mais la Bulgarie, déjà, comme la Roumanie, ce sont deux pays européens. C'est ça l'énorme changement. On a toujours fait partie de l'Europe. Nous, on a l'impression, pour la Bulgarie, de revenir à nos sources, à nos origines.
Ben oui, c'est comme vous disiez très justement au début, que vous avez même l'impression d'être le premier pays, enfin, à l'origine de la civilisation.
Même. Je dirais l'effet de l'existence des alliances françaises, c'est un signe de la démocratie. Moi, j'ai été l'interprète du président François Mitterrand lors de sa visite historique en 1989. Quelques mois après, a eu lieu le changement du régime. À cette époque-là, bon, j'étais toute jeune et déjà le conseiller culturel, l'ambassadeur à l'époque, parlait que voilà, il va y avoir la réouverture des alliances en Bulgarie parce que les alliances étaient fermées pendant le communisme, elles étaient interdites comme contradictoires au régime.
Donc, elles existaient bien avant. Alors.
Bien sûr, il y avait 34 alliances, maintenant on en a 8. Ah, oui. Et à cette époque-là, j'avais un petit peu du mal à croire que cela, peut-être un jour, serait possible. Vous voyez, quelques mois avant le changement. Et 20 ans plus tard, je suis la directrice de la plus grosse alliance du pays. Vous voyez si ce n'est pas...
Oui, félicitations. Et monsieur le président, monsieur Tchaoulakou, vous, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Est-ce que le changement était relativement brutal, immédiat, ou aussi avec une transition dans les mentalités entre, disons, le totalitarisme soviétique avant et donc la chute du communisme?
Les changements sont presque toujours brutaux, hein. Mais bien sûr que du point de vue institutionnel, les changements étaient très très vite, comme partout dans l'Europe de l'Est, ce qui en fait que tous les pays ont passé d'un régime communiste à un régime démocratique. Et après, on voit ensuite les institutions suivent. Mais dans les mentalités, bien sûr qu'il y a du travail à faire. On ne peut pas condenser en 10 ans, 20 ans, ce qu'on a évolué dans 100 ans.
Oui.
Mais il y a du travail à faire. Mais la remarque qu'on peut faire, c'est que le changement a été rapide, douloureux, avec des efforts à faire, mais avec des progrès importants. Et je pense que ce qui compte aujourd'hui, c'est que l'Europe de l'Est, à l'époque, on l'appelait l'Europe de l'Est, là maintenant c'est l'Europe centrale, fait partie de l'Union européenne.
Oui.
Donc, du point de vue institutionnel, du point de vue législatif, nous nous félicitons tous, comme ma collègue l'a dit, l'Europe de l'Est est revenue à la maison. Donc, on a effacé un peu le tribut à payer lors de la Deuxième Guerre mondiale, qui a finalement, malheureusement, coupé l'Europe en deux. Il ne faut pas oublier ça.
Donc, pour nous réjouir tous ensemble de cette merveilleuse évolution de l'histoire, je vous invite à faire une courte pause avec une belle musique, d'abord roumaine, peut-être Maria Tanase.
Și mărioară, Marie și mărioară, iau un par de mă omoară, parul să fie de plop, să nu mă omori de tot, măi, Marie și arde mă omoară că de trei zile zac în boală și nu-mi zice nimeni scoală de trei zile zac în boală și nu-mi zice nimeni scoală dar de-i zice dumneata m-ar mai trage inima mei, dar de-ai zice dumneata m-ar mai trage inima mei.
J'ai le grand plaisir de me trouver toujours en compagnie de Elena Angelescu, directrice de l'Alliance française à Brașov, en Roumanie, et son président, Ian Ciolacu, et également de la directrice d'une alliance française à Plovdiv, en Bulgarie, Teofana Bradinska. Donc, nous sommes dans ce petit studio à Canal Academy et on a déjà fait un voyage dans l'Europe de l'Est ou l'Europe centrale, comme vous venez de le dire, Monsieur le Président. Alors maintenant, on va peut-être parler plus spécifiquement de vos établissements, de l'Alliance française, par exemple. On va commencer avec Elena, si vous voulez bien nous dire un petit peu quelle est votre vie à Brasov, comment vous vous organisez avec vos élèves.
Donc, l'Alliance française de Brasov promeut, comme toutes les autres alliances d'ailleurs du monde, la culture et la langue française. La langue française avec des cours de français, à travers les cours de français, et la culture, les traditions, à travers les activités culturelles. Ce qui particularise un peu notre alliance à Brasov, c'est le fait que dans notre ville, il y a une importante communauté allemande et on est encouragé par les deux ambassades des deux pays, français et allemand, à développer des projets culturels communs.
Vous travaillez avec le Goethe-Institut peut-être
On n'a pas Goethe-Institut à Brasov, on a un centre culturel allemand. Et nous avons déjà un calendrier commun. On est beaucoup encouragés par les deux ambassades. On a même reçu des fonds Élysée. Ce sont des fonds destinés à encourager les projets culturels communs franco-allemands. On commence chaque année par la journée franco-allemande, journée qui a été établie par les deux chefs d'État en 2003, quand on fêtait 40 ans de la signature du traité de l'Élysée. Et cette année,
Qu'est-ce que vous présentez comme manifestation lors de ces journées ?
Des manifestations diverses, des spectacles, des conférences, des forums. En 2006, par exemple, nous avons eu un forum dédié à la préparation de la Roumanie pour l'adhésion à l'Union européenne. Et cette année, par exemple, cette fête, cette journée franco-allemande à Brasov a été marquée par la présence des deux ambassadeurs à Bucarest, l'ambassadeur de France et l'ambassadeur d'Allemagne.
Et plus précisément pour vos cours, donc vous avez, j'imagine, un peu développé les nouvelles technologies pour faciliter l'apprentissage de la langue.
Oui, nous sommes toujours préoccupés par ça. Même aujourd'hui, au colloque, nous sommes munis d'une extrême nouvelle technologie, SpeedLingua, que nous avons hâte de la mettre en pratique.
Oui, expliquez-nous ce que c'est.
C'est une technologie qui développe la phonétique,
la prononciation.
SpeedLingua,
oui.
Donc j'imagine que ça marche avec des enregistrements et des exercices
avec un équipement spécial, adaptés. Nous avons une équipe pédagogique formée par 10 professeurs de français. Nous donnons des cours de français général, des cours de français de spécialité, par exemple le français juridique. Nous encourageons la jeune génération à apprendre le français. Nous avons pas mal d'apprenants qui passent les examens pour obtenir des diplômes reconnus internationalement.
France, internationalement,
DELF.
Vous savez combien d'apprenants, combien d'élèves ?
Une moyenne de 235-250 élèves par an.
Ah oui, c'est assez remarquable pour une ville qui n'est quand même pas si grande.
Oui.
Il y a une certaine évolution aussi, c'est-à-dire une croissance d'inscription régulièrement.
Pas spectaculaire, mais c'est-à-dire
vous attirez
existe quand même.
Vous attirez, j'imagine, enfin vous essayez d'attirer de nouveaux élèves ou apprenants par des activités diverses.
Et par des activités, et il y a assez de motivation pour les attirer parce que maintenant les jeunes sont stimulés, motivés d'apprendre, de poursuivre leurs études en France ou dans les pays francophones, et puis les adultes pour travailler.
Et il y a beaucoup d'entreprises, par exemple à Brasov, d'entreprises françaises, ou quelques-unes au moins. Peut-être nous les citer, Monsieur le Président.
Ce que je voudrais vous dire, Brasov, c'est une ville qui a 330 000 habitants. Donc ce n'est pas une très grosse ville, mais ce n'est pas une très petite ville non plus.
Absolument, oui. Et donc 200 élèves en moyenne, c'est quand même assez respectable.
Voilà, je voulais vous préciser que l'Alliance française se trouve aujourd'hui dans un partenariat unique dans le pays avec la bibliothèque de la région, du département, et qui ont uni leurs forces de l'Alliance française et la bibliothèque de la ville pour créer une médiathèque francophone dans l'espace de 120 mètres carrés. Et ça prouve bien l'intérêt d'une alliance de s'intégrer dans la société de la ville ou du pays d'origine où elle est active. En ce qui concerne la présence française à Brasov, on peut dire qu'il y a environ une petite centaine de Français qui se sont installés. Et il y a quelques sociétés dont je vais citer les plus importantes.
Des petites et moyennes entreprises
Des petites et moyennes entreprises, mais aussi des grosses entreprises comme Eurocopter, comme Total, comme Hutchinson, comme le groupe La Paire, le groupe MOP d'outillage. Et bientôt,
on le dit. La délocalisation
On le dit en douceur, Airbus peut-être.
Ah oui. Bon, mais écoutez, ça vous fait vraiment quand même un énorme potentiel pour des futurs apprenants.
Oui, ben vous savez, je voudrais rajouter sur le mot de localisation parce qu'il est très à la mode, entre guillemets, hein, parlant.
En France, il est très à la mode.
Relativisons un peu, c'est une délocalisation, entre guillemets, à l'intérieur des frontières européennes.
Bien sûr.
Et ça change tout.
Ça quand même avec humour.
J'ai bien compris, moi aussi.
Vous ne m'en voulez pas.
Du tout.
Oui, oui, tout à fait. Non, mais toute façon, ça circule à l'intérieur de l'Union européenne. Oui,
tout à fait. Et ce que je voulais rajouter, peut-être préciser, parce que vous avez demandé à ma collègue tout à l'heure, le roumain, c'est une langue latine. La plupart des Français le savent, mais je pense qu'il faut bien préciser. 38%, je ne sais pas à quel point, c'est peut-être un chiffre intéressant, 38% des mots du roumain viennent des mots du français, qui ont ainsi été, bien sûr... peut-être
oui,
adapté à la langue roumaine.
On a mais quand même une base latine commune.
Un bassin commun,
oui.
Des mots d'origine. Donc, les Français, quand ils arrivent sur place, ils sont très étonnés de voir que...
Ils
ne se sont pas du tout dépaysés. Ni
vous
du
avez
point
quelques
de vue
exemples
ville. Bah, écoutez, oui. Vous
dans
savez,
les salutations, par exemple.
Dans la salutation, on dit... non, je vous donne un exemple simple. On dit bonjour, en roumain, on dit bună ziua.
Ah oui, c'est...
On dit
oui.
Bonsoir, en roumain, on dit bună seara.
Ah bah oui, c'est très proche de l'italien également, d'ailleurs.
On dit en français, on dit salut, salut, en roumain, on dit salut.
Jusqu'à présent, on pourrait très bien s'entendre, se comprendre.
C'est vrai qu'à partir du moment où on lit les journaux, par le fait déjà qu'il y a un alphabet latin, bien sûr, on arrive facilement à comprendre de quoi s'agit-il. Quand on parle la langue, c'est un peu plus difficile. Et je voudrais faire une toute petite observation, si vous me permettez. Bucarest, entre les deux guerres. La Première et la Deuxième Guerre mondiale étaient nommées quand même le petit Paris de l'Orient.
Ah oui.
Parce qu'il y avait beaucoup d'architectes. Et la ville,
intellectuelle.
Tout à fait, très riche du point de vue culturel. Et il y avait même une communauté française importante à Bucarest.
Jusqu'à ce que la Roumanie tombe sous la dictature soviétique.
Exactement. Mmh. Mmh. Exactement.
Bon, c'est fini, la dictature.
Avec, heureusement.
Et donc, je vous propose une autre courte pause, mais cette fois-ci, alors, avec les fameuses voix bulgares, parce que je voudrais bien m'adresser encore à Madame Théophane Bradinska pour nous expliquer un tout petit peu la situation donc, dans votre alliance à Plovdiv. Ah, ces merveilleuses voix bulgares. Justement, alors, Théophane Bradinska, vous venez de m'expliquer hors antenne l'origine du nom de votre ville, Plovdiv. Vous ne voulez pas nous l'expliquer rapidement?
C'est Philippe II de Macédoine qui, encore en 342 avant Jésus-Christ, a donné le nom de la ville. Elle s'appelait Philippopolis, ville de Philippe. Et en fait, Plovdiv, c'est à partir de 1859 que c'est une traduction d'abord de ville de Philippe en langue slave qui a été Pulpudeva, Plovdin, Plovdin, c'est une modification phonétique pour en arriver jusqu'à un jour à Plovdiv.
D'accord, on a tout compris. Donc, vous voulez bien nous présenter votre alliance donc à Plovdiv?
Alors, notre alliance, donc c'est un réseau international, donc je ne veux pas répéter, puisque notre alliance fait les mêmes activités que l'alliance à Brachov.
Ou comme toutes les alliances, les cours, donne des voilà. cours de langue et diffuse la culture française, mais, oui, mais il y a quand même des particularités.
Voilà, et justement, en 2010, pendant l'année du dialogue interculturel, je voudrais parler de notre événement phare culturel qui donne une visibilité, pas seulement à l'Alliance française de Plovdiv, mais à toutes les alliances à l'international, c'est le Festival international de la chanson francophone. Comme vous avez compris, les Bulgares chantent et pas seulement les Bulgares. Et donc, la chanson est mise en l'honneur.
Oui.
Et c'est grâce au réseau des alliances, grâce au directeur, grâce par exemple à Brachov, aux Pays-Bas, à La Haye, à Amsterdam, à l'Asie, à Bombay, à Bangkok. Vous voyez, on a des chanteurs de l'Égypte, du Québec. Donc, on réunit, c'est entre 12 et 15 pays à Plovdiv au mois de juin chaque année pour quelques jours pour chanter en français.
Oui. Selon... C'est donc votre initiative.
Exactement. Et nous, on organise. Mais quand je dis on organise, c'est avec l'appui des directeurs parce que tous les directeurs viennent de manière bénévole, amènent un chanteur pour représenter leur pays.
Oui, tous les directeurs des autres pays, vous voulez dire.
Oui, des alliances. Des alliances.
Oui.
Et particulièrement, je voulais souligner Brachov, puisque c'est Brachov qui nous offre la photographie. Toutes les photos dans notre dossier, dans notre visibilité, sont cadeaux de Brachov. Et ce sont des photos
merci,
professionnelles.
Brachov. Avec plaisir. Et Monsieur le Président et Elena.
Donc, notre festival, vous pouvez le voir aussi chaque année sur le site de l'Alliance française de Brachov, où il y a un diaporama Plovdiv. Et vous voyez, c'est ça la grande famille des alliances. C'est ça le réseau international. Et vraiment, c'est le dialogue qui est mis en avant. Ce n'est pas la compétition. Nous, ce qui est le plus important dans l'ambiance de ce festival, c'est la rencontre. Et chaque pays, en gardant son identité, communique sur la francophonie et sur la langue française.
Oui, vous devez avoir un énorme travail d'organisation pour l'accueil, l'hébergement.
Bien sûr, on a des partenaires.
Éviter les dérapages éventuels, etc.
On fait très attention, puisque quand les gens sont bien accueillis, ce sont les meilleurs ambassadeurs de notre pays. Ensuite, on a des partenaires. Bien sûr, ça, c'est une grande responsabilité. L'accueil et tout le déroulement, c'est pendant toute l'année qu'on y travaille, mais c'est grâce à nos partenaires bulgares et français, d'ailleurs, que le festival peut s'organiser, peut bien se passer, que tout le monde ensuite ait envie de revenir et garde un magnifique souvenir.
Donc, vous organisez ce festival de la chanson tous les ans, à quelle époque?
C'est en juin, donc en 2010. Les concerts sont le 24, 25 et 26 juin. C'est toujours autour de la fête de la musique. Et la fête de la musique, c'est le 21 juin, mais on le fait deux jours plus tard, justement, pour permettre à toutes les alliances de se rendre à Plovdiv. C'est toujours en juin, parce qu'il fait plein du soleil et... La langue de communication, c'est en français, mais par exemple, quand il y a l'Alliance française de Brunei qui participe, l'Alliance française d'Égypte, tous, de Turquie, tout le monde, la langue qui nous unit, on communique entre nous en français.
En français, oui.
En dehors de la chanson qui est la musique, il n'y a pas de barrière.
Ben écoutez, je vais vous faire un cadeau. Pour vous remercier d'être venu ici, on va essayer de mettre votre site et avec donc surtout la diffusion de ce festival, ou au moins le diaporama ou peut-être même des extraits du festival même, sur notre site sur Canal Academy, parce que je pense que ça va faire des heureux aussi parmi les internautes de Canal Academy, parmi nos auditeurs. Écoutez, je vous remercie à tous les trois d'être venus jusqu'à notre studio.
Merci à vous.
Venez de loin, mais la raison aussi, enfin, une des raisons était quand même, je dois le signaler, c'était le 32e colloque international de l'Alliance française qui se tient régulièrement en janvier à Paris. Et donc, nous avons eu le plaisir de faire connaissance. Merci à vous trois et peut-être
à
bientôt.
Merci.
Ou en Roumanie, en Bulgarie.
Dans nos alliances, oui.
Au revoir et bon retour dans votre pays.
Merci.
Merci.